choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus
Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que...
Il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Ça fait toujours plaisir d'être en contact avec vous quand il sonne 11h sur La Nouvelle Génération. Nous sommes au vendredi 24 mai 2024. Il sonne 11h, bien sûr, et vous comprenez que nous sommes dans la cinquième numéro alors de cette émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATVI sur la mise en onde et la mise en ligne également, et puisque nous sommes écoutés et relayés également sur nos différentes plateformes digitales. Et je suis au micro, Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et tel que je le disais, vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes déjà présents, c'est Dr Francisco Napokoura. Bonjour.
Oui, bonjour cher Pascal et bonjour aux auditeurs et auditrices de La Nouvelle Génération, confrères ici en studio, les techniciens derrière la belle vitrine.
Et ça fait longtemps, on n'a plus écouté cette voix.
Oui, effectivement, vous savez, on a beaucoup, beaucoup d'obligations. Et ailleurs, c'est souvent avec un cœur serré qu'on est loin des studios. C'est pas facile, c'est pas évident. Et, mais dès que l'occasion le permet, hein, on reprendra toujours présent.
Voilà, merci d'avoir répondu toujours à ce devoir qui nous appelle tous ensemble, nous journalistes, si je veux bien dire.
Oui, justement. J'étais à Bassa toute la semaine dernière, jusqu'à revenir, je crois, mercredi. Il y a un message que nous avons dans les autorités sanitaires, c'est que malheureusement, nous avons... Nous sommes tombés sur une information où une femme, une dame, a été mordue par un serpent, ce qu'on appelle équis. Ils ont tué le serpent et apporté le serpent à l'hôpital avec, bien sûr, la victime. Et malheureusement, les sérums qui ont été présentés antivenimeux, on ne sait pas comment est-ce que les gens ont fait, disons, l'amalgame entre deux différents surhommes, puisque quelqu'un dit c'est ça, l'autre dit c'est ça, et on a fait un choix, on a inoculé à la dame, mais après c'est des complications. Le serpent équis, c'est quand même un des serpents les plus venimeux, et donc après c'est les saignements, que ce soit par les narines, même les yeux, le truc.
Et ça s'est passé où, Francisco?
Oui, à Bassa, dans un petit village, mais on l'a amené à l'hôpital préfectoral de Bassa. Ce n'est pas ils n'ont pas tardé. On a apporté et le serpent et la victime. Donc, le choix du sérum a été mal fait. Après complication, on la transporte à Sokodé. Et de Sokodé également, on n'arrivait pas à trouver une solution. On l'a retourné remonter à Kara. Donc ça fait une quinzaine de jours. Ce matin, quand j'ai appelé, son état est toujours critique. Donc non seulement ici, ce n'est pas que c'est l'indisponibilité du sérum, mais le sérum existe bel et bien. Et les variétés, maintenant, c'est le choix qu'il fallait faire qui a été mal fait. Et
mais est-ce qu'il n'y a pas d'étiquette là-dessus? Est-ce qu'on n'arrive pas comment se fait-il qu'on n'est pas arrivé quand même à distinguer
C'est le message que nous lançons au ministre de la Santé de faire la lumière sur cette affaire, parce que ce n'est pas seulement une personne qui est victime. La dame était porteuse d'un bébé qui malheureusement ça a coulé également.
D'accord.
Donc c'est vraiment un cri d'alerte. Et que s'il y a recyclage ou autre affaire, mais quand même, il est nécessaire que le ministre de la Santé et ses collaborateurs se penchent sur ce dossier et pour que s'il y a des choses à faire pour remédier à des cas dans le
futur. Merci beaucoup, Francisco, pour ce coup de cœur. Je pense que ce message est passé. Ceux qui sont également à la charge alors de la santé dans notre pays vont écouter, bien sûr, alors ce message. Germain Poli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu as bien passé la semaine.
On remercie Dieu, la semaine s'achemine vers sa fin. On espère qu'on va bien finir, que le week-end qui s'annonce aussi va bien se dérouler.
Le week-end s'annonce bien, je pense que ce week-end s'annonce bien chez Firmin Tekouagbo aussi. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lussou, merci de m'avoir invité.
Ça s'annonce bien le week-end?
Oui, bien évidemment, avec la grâce de Dieu. On a toujours espoir. Il y a une parole dans la Bible qui me dit toujours il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est Jérémie 31, verset 17.
Donc, vous êtes chrétien?
Moi, je suis chrétien, je suis profondément chrétien. Je crois en Dieu, je sais que Jésus-Christ, il est mort pour moi et il est ressuscité. Et donc, on l'attend, donc on va vivre longtemps et au dernier jour, on va le voir et on va régner avec lui.
D'accord, merci beaucoup d'avoir partagé votre foi avec nous. Alors, nous ne serons pas seuls alors dans ce studio. Pour la première partie, bien sûr, nous allons parler alors de la 23e édition du Forum international de l'OME, du pharmaceutique, bien sûr. Alors, et pour l'occasion, nous recevons Dr Nyasenou Yao Toufa. Dr Nyasenou, bonjour.
Bonjour Monsieur Pascal.
Docteur, je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo et aussi président du comité d'organisation du 23e forum international FPI, alors de l'OME, du pharmaceutique bien sûr. Alors à votre côté aussi, nous avons Docteur Alfred Sandwidi. Docteur, bonjour.
Bonjour.
J'espère que je n'ai pas écorché votre nom.
Non, pas du tout.
D'accord. Et, docteur, vous êtes alors le pasteur président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso et secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international qui se tient à Lomé. Alors, concrètement, quand on prend docteur Alfred, c'est dans quel contexte alors le Togo accueille ce forum?
Alors, comme vous l'avez si bien indiqué, c'est la 23e édition du Forum pharmaceutique international. C'est-à-dire que chaque année, les pharmaciens d'Afrique se réunissent dans un pays africain pour organiser ce forum pharmaceutique international. L'année dernière, nous étions au Sénégal et cette année, nous avons, avec beaucoup de plaisir, à nous retrouver à Lomé pour la 23e édition du forum pharmaceutique international. Il faut se dire que le forum pharmaceutique international a été créé, ou du moins sa première édition s'est tenue à Cotonou en 2000. Donc vous imaginez que le bébé a beaucoup grandi, à l'âge aujourd'hui de
24 ans.
24 ans, c'est l'âge de la maturité.
Tout à fait.
Et que le Togo l'avait déjà organisé en 2007. C'était sa 8e édition en 2007. Donc c'est le grand garçon que Lomé va recevoir aujourd'hui. Et donc le petit garçon a beaucoup grandi et nous allons organiser la 23e édition à Lomé du 3 au 6 juillet, bien entendu, à l'hôtel du 2 février et certainement au centre de conférence international de Lomé également.
Voilà. Docteur Nassenou, c'est quoi l'objectif alors de ce forum?
Alors, l'objectif de ce forum est déjà de fédérer les pharmaciens d'Afrique. Mais permettez, avant de revenir sur ce forum, que je puisse joindre ma voix à celle du docteur Francis Napokoura pour représenter nos sincères condoléances à la famille éplorée. Je sais que notre pays vit ce phénomène depuis un certain nombre d'années, surtout dans la région septentrionale. Et je suis vraiment très sidéré par cette situation. Le produit était disponible, le sérum, pour faire la prise en charge. Mais dans ces cas, ce n'est pas que le sérum. Je pense qu'on a besoin de plateau technique et que le personnel aussi soit outillé pour faire une prise en charge en urgence de ces situations. Et il faut effectivement faire la lumière, trouver qu'est-ce qui s'est exactement passé afin qu'on puisse rapidement remédier à ces cas et permettre à la population pour ces genres de situations d'être vraiment protégée et qu'on puisse et qu'on évite d'arriver à cette situation de deuil.
Merci.
Alors, pour arriver rapidement peut-être sur l'objectif de ce forum, c'est de fédérer les pharmaciens d'Afrique afin de les engager vers le thème que nous proposons, l'accès universel aux soins, défis, enjeux et perspectives. Nous savons que nous venons de rentrer dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. C'est très important pour les pharmaciens de rester solidaires de cette assurance maladie et permettre à toute la population d'avoir accès à des produits de qualité sûrs et efficaces.
Docteur Sandadi, c'est quoi vos attentes déjà à l'issue alors de ce congrès ou ce forum?
Et comme Docteur Toufa Niasounou vient de le dire, il s'agit pour nous, pharmaciens d'Afrique, de pouvoir échanger et de partager nos expériences dans différents domaines, et notamment le thème central qui est aujourd'hui autour de l'assurance maladie universelle, et ce droit d'accès des populations aux médicaments de qualité. Et donc, à l'issue de ce forum, nous aurons de fortes recommandations que nous allons soumettre à l'autorité politique qui est à même de décider pour que les populations africaines puissent avoir à tout moment, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau économique, accès aux produits de santé. Parce que, comme vous le savez bien, beaucoup de nos vaillantes populations ne vont pas souvent dans les formations sanitaires parce qu'ils se disent que je n'ai pas d'argent, ce n'est pas sûr que je puisse payer ou honorer les ordonnances, donc je n'y vais pas. Donc je pense que cette politique est la bienvenue. Et nous sommes très heureux parce qu'il y a des pays qui l'ont réussi, plus ou moins. Quand vous prenez certains pays du Maghreb, déjà au niveau de l'industrie pharmaceutique, parce qu'on va en discuter, ils arrivent à satisfaire 50 à 60% de leurs besoins par la production locale, ce qui est déjà énorme. Et par ricochet, ils arrivent à trouver les médicaments sur place également pour assurer la disponibilité des populations pour l'assurance maladie. Donc, il s'agit pour nous de discuter de toutes ces expériences réussies pour que nous puissions sortir, mutualiser nos efforts et que les pharmaciens puissent porter des recommandations aux autorités dans le cadre de cette assurance maladie universelle.
Docteur, j'ai envie de savoir comment se porte aujourd'hui le secteur pharmaceutique en Afrique.
Plus ou moins bien. Plus ou moins, je dis cela parce que quand on a connu l'expérience de la COVID-19, on se dit qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Quand on a vu le monde se barricader avec cette COVID-19, où on n'avait pas de masque, où on n'avait pas de gel, on s'est rendu compte que les simples médicaments de base, les produits essentiels, nous n'arrivons pas à les produire, rien que le paracétamol ou bien les antipyrétiques, l'Afrique n'arrivait pas à les produire. Et on était obligé de courir vers certains pays d'Asie pour en avoir. Je pense que nous devons tirer leçon de cela, parce que quand vous prenez globalement la production mondiale de médicaments, l'Afrique représente 2%, ce qui est vraiment insignifiant au regard des problématiques de santé que nous avons dans nos pays. Comme quelqu'un le disait par le passé, les maladies sont en Afrique et les médicaments sont au Nord. Donc il faut absolument inverser la tendance et au cours de ce forum pharmaceutique, nous allons mettre sur la table cette problématique de la production locale de l'industrie pharmaceutique en Afrique.
Mais sur ce coup, c'est-à-dire ce problème de la production des produits pharmaceutiques, bien sûr, en Afrique, qui est tellement minime, tel que vous venez alors de donner la statistique, mais disons la vérité, c'est quoi le souci? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas assez de produits chez nous pour fabriquer même d'ailleurs, pour avoir ces productions, ou bien c'est quoi notre problème?
Je pense qu'il y a une prise de conscience à déjà avoir et que la volonté politique également s'exprime au plus haut niveau. Parce que vous voyez, l'industrie pharmaceutique exige beaucoup de moyens, beaucoup de ressources financières à mettre en œuvre et ceux qui investissent dans ce domaine veulent avoir un cadre dans lequel ils vont investir et avec un retour sur investissement. Les pharmaciens d'officine ne peuvent pas produire de médicaments. Donc, il faut que ce soit à l'échelle des États et même à l'échelle sous-régionale et même africaine. Parce que quand on regarde la taille du marché dans nos différents pays, pour certains produits, c'est insignifiant. Donc, il faudrait voir est-ce qu'au niveau UEMOA et à l'échelle de l'Afrique, on ne peut pas mettre en place des industries pour pouvoir produire pour toute l'Afrique. Parce que les investisseurs qui viennent avec les moyens, parce qu'il faut beaucoup de moyens, c'est à terme de dizaines ou de centaines de milliards à mettre en place une industrie pharmaceutique. Donc, il faut vraiment fédérer l'ensemble des compétences, parce que les compétences, de plus en plus, nous en avons. Quand vous regardez nos universités, vous avez des professeurs à tous les étages. Vous avez des étudiants également très compétents, mais il faudrait que cette volonté politique s'exprime pour que les autres partenaires puissent vraiment y investir.
Mais est-ce que ça n'avantage aussi par les pays occidentaux? Parce que déjà, il y a la question, la raison commerciale également qui est en jeu. Parce que quand on prend même d'ailleurs ces pays qui nous envoient des produits, nous constituons un grand marché pour eux.
Mais tout à fait. Mais d'où la nécessité de la prise de conscience. Voilà. Je pense que,
et une volonté politique telle que vous l'avez dit.
C'est ça. Cela nous appartient à nous de regarder parce que il est évident que quand vous prenez un peu je ne veux pas citer de nom, mais quand même certains pays d'Asie qui nous approvisionnent pratiquement à 80-90% en médicaments, vous regardez dans ces pays, il y a un peu du dumping. Voilà. Il y a beaucoup de subventions qui sont accordées. On n'hésite pas à baisser les prix pour que quand vous avez votre modèle économique, on vous dira non, mieux vaut acheter que de produire parce que ça va revenir plus cher dans vos pays, ainsi de suite. Donc, à nous de regarder cela et puis engager nos pays. Et puis, nous avons la ressource également au niveau de... des produits phytosanitaires.
Oui, docteur, sur ce point, il est dit souvent qu'il y a certains produits qui sont fabriqués rien que pour l'Afrique. Est-ce vrai?
Alors, je dirais non. Et si c'est ainsi, il nous appartient de débusquer cela. Parce que quand nous recevons les médicaments, nous avons des autorités de réglementation, de régulation du secteur pharmaceutique qui ont le devoir de contrôler les médicaments que nous mettons sur le marché. Avant d'être dispensé dans un pays, un médicament doit avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Et dans cette autorisation de mise sur le marché, il y a le contrôle préalable que l'autorité doit faire. Parce que celui qui amène le produit va toujours dire que c'est un médicament contrôlé, certifié, de qualité. Mais il nous appartient à nous de contrôler ce médicament. Et même en post-marketing aussi, on contrôle. Souvent, vous avez des médicaments que vous pouvez contrôler à l'entrée, bon, qui peuvent se révéler plus ou moins satisfaisants, mais qui ne répondent pas aux conditions climatiques de nos pays. Donc, après 6 mois, souvent, il faut repartir dans les formations sanitaires et même périphériques pour regarder est-ce que ce médicament répond, est-ce qu'il peut résister à certaines températures, à l'humidité, et ainsi de suite. Donc, bon, je pense que si d'aventure c'est ainsi, mais là, la responsabilité nous revient de contrôler ces médicaments.
D'accord, nous revenons à ce forum international de la pharmaceutique. Docteur Niassenou, alors finalement, c'est quoi le programme et les grandes thématiques, hein, les grandes thématiques qui vont meubler ce forum?
Alors donc, ce forum se tiendra du 3 au 6 juillet 2024, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous aurons en marge de ce forum les assemblées générales des instances. Donc, au rang des instances, nous avons 5. Essentiellement, c'est tous les acteurs du secteur pharmaceutique. Nous avons les ordres de pharmacie, donc représentés par l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique. Nous avons les syndicats, l'Inter-Syndical des pharmaciens d'Afrique. Les centrales d'achat des médicaments essentiels et génériques de tous les pays. Et l'Association des agences de réglementation pharmaceutique. Et la dernière instance, c'est la conférence des doyens de faculté de pharmacie. Donc, toutes ces instances auront leur assemblée générale le 3 juillet. Et à partir du 4 juillet, nous aurons la cérémonie de lancement. Ensuite, la conférence inaugurale. Et donc, dans la soirée du 4 jusqu'au 5 juillet, nous aurons les sessions thématiques, des conférences, des tables rondes, des panels. Et il y aura aussi des stands qui seront visités par les participants. On aura des exposants qui viendront présenter soit des produits qui sont utilisés dans nos différents pays, ou bien des dispositifs médicaux et d'autres partenaires qui auront des stands.
Docteur, quel est le message que le Congrès veut délivrer à l'opinion publique et aux décideurs?
Alors, le message, ça rejoint directement les thèmes. Donc, je disais l'accès universel aux soins. La plupart des pays, quand on prend aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on dirait qu'on est un peu en retard par rapport aux autres parties de l'Afrique, l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, qui sont à près de 40 à 60% de couverture en termes de santé. Et donc, même en termes de production, ça a été dit, ils arrivent à couvrir près de 60 à 80% de leurs besoins. Il faut que nous puissions réfléchir au niveau de ces deux zones, essayer de fédérer pour pouvoir trouver des solutions à non seulement l'assurance maladie, il faut qu'on ait des produits sûrs et efficaces et répondre en termes de besoins de médicaments pour nos populations. On a d'autres sous-thèmes, l'accès aux médicaments dans les zones en situation de conflit. Nous voyons un peu ce qui se passe dans les différentes zones. Il faut que le pharmacien soit présent aux côtés de la population pour lui apporter des produits de santé. L'extension des nouvelles missions des pharmaciens. Avec la COVID, nous avons remarqué que le pharmacien peut faire autre que la dispensation. Nous avons vu dans les pays développés, que ce soit la vaccination, que ce soit le test de dépistage. C'est possible pour les pharmaciens africains aussi de répondre à ces ententes. Nous irons vers des formations continues, soit sur la pharmacovigilance, la résistance aux antimicrobiens, pour donner aux pharmaciens d'autres outils leur permettant d'être prêts, et non seulement pour les enjeux, mais aussi pour les futures pandémies, qu'on le veut ou non, il faut qu'on soit vraiment préparé. On doit parler aussi du dialogue interprofessionnel pour faire une meilleure prise en charge des patients. Ce n'est pas que le pharmacien, nous avons des médecins, des infirmiers, des sages-femmes. Il faut que tout ce professionnel, ce corps de professionnels de santé puisse parler le même langage pour le meilleur du patient, qu'il soit en bonne santé.
Notre temps nous fait défaut. C'est sûrement que à la fin de ce forum, nous allons vous recevoir de nouveau pour discuter alors de ce qui en est sorti. Ça nous fera tellement plaisir. Docteur Alfred Sandouadi, et pour ce qui concerne les recommandations, c'est vrai que vous n'avez pas encore fini le forum, mais pour ce qui concerne les recommandations, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les recommandations pour terminer cet entretien?
Ah oui, bon, vous l'avez si bien dit. Les recommandations sont formulées à l'issue du forum pharmaceutique. On ne peut pas d'emblée les faire ressortir. Mais bon, nous avons de grandes idées pour chaque thème. Nous savons qu'il y a des recommandations fortes à sortir, notamment la question de l'assurance maladie universelle. C'est véritablement impliquer davantage les pharmaciens impliquer davantage les pharmaciens pour la réussite de l'assurance maladie universelle. Parce que quand l'on sait que 80% des dépenses de santé de nos populations sont liées aux médicaments, vous imaginez le rôle central du pharmacien dans la réussite de l'assurance maladie universelle. Donc, c'est véritablement compter sur le pharmacien. L'autre question, c'est véritablement la question de l'industrie pharmaceutique. Comme nous l'avons dit, nous devons tirer tous les enseignements. Que ce soit la situation de la COVID, même la crise, les effets délétères de la crise sociopolitique ukrainien-Russie, nous voyons beaucoup de ruptures de médicaments aujourd'hui. Certainement, beaucoup d'auditeurs ont dû observer qu'il y a pas mal de médicaments qui sont en rupture dans les pharmacies aujourd'hui. Hein. Et souvent des médicaments pour lesquels on n'a pas d'alternative thérapeutique. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer. Et c'est, l'Europe est en train de se barricader à ce niveau. Ils sont en train de mettre des stocks de sécurité très importants. Et malheureusement, nous subissons parce que nous n'avons pas les médicaments. Mmh. L'autre aspect qu'il a indiqué également, qui sera une forte recommandation également, c'est la dispensation des médicaments dans les zones en conflit. Moi, je viens d'un pays, le Burkina Faso, où nous subissons un peu cette situation, avec beaucoup de populations déplacées et des ruptures de la chaîne d'approvisionnement parce que, bon, vous imaginez, et dans les zones à haut défi sécuritaire, les grossistes repartiteurs ne peuvent plus donner des médicaments. Donc, il s'agit de trouver les mécanismes pour que ces populations qui sont déjà en difficulté puissent avoir les produits de santé.
D'accord. Merci beaucoup, Dr. Alfred Sandoudi. Oui. Merci d'être passé alors dans cette émission et bon forum à vous. Merci Dr. Nyassenou Yao Toufa, d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo et président du comité d'organisation du 23e Forum international de l'OMÉ du pharmaceutique. Et merci à vous deux alors d'être passés alors dans cette émission. Dr. Alfred Sandoudi, je rappelle que vous êtes passe-président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso et secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international. Merci d'être passé alors dans cette émission. Retour dans cette émission, et nous sommes entre confrères et aussi d'autres observateurs, bien sûr, de la vie politique et sociale, bien sûr, avec nous, puisque nous l'avons dit depuis un temps que nous voudrons élargir alors nos plateaux à d'autres personnes également qui seront toujours avec nous pour faire le débat. Et donc, monsieur Kofi Annani nous a rejoint. Monsieur Kofi Annani, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ah, ça va très bien.
Vous êtes l'un des observateurs, bien sûr, de la vie politique et sociale alors du pays. Nous allons débattre alors de cette vie tout de suite. Monsieur Akwete Jean, vous êtes aussi observateur alors de la vie politique et sociale de notre pays. Bonjour.
Bonjour Pascal Ossou.
J'espère que vous allez bien.
Nous allons super bien.
D'accord, Dieu merci. Alors, chers confrères, je voudrais quand même qu'on débatte, qu'on commence ce débat avec cette situation alors de mouvement d'humeur à l'université de Lomé. Et c'est vrai, il y a de cela deux semaines que ce mouvement a commencé. Avec ce mouvement, il y a les enseignants-chercheurs, bien sûr, à l'université de Lomé qui sont en train de revendiquer un certain nombre alors de choses. Il y a le reliquat des accords de 2011, il y a l'autonomie de l'université hein, de Lomé bien sûr, et il y a les 5 et 10% des décrets présidentiels sur la charte de la vie, y compris les enseignants, alors le personnel administratif et technique des UPT. Et aussi, parmi les revendications, il y a aussi l'annulation de l'arrêté concernant le secrétaire général du syndicat CACEST pour avoir revendiqué pour les enseignants. Alors, il y avait été affecté à l'ENS alors d'attaque Bamé. Alors, docteur Francisco, vous suivez de près cette actualité, ce mouvement d'humeur au niveau de l'Université de Lomé. Est-ce que, déjà selon votre analyse, on pourra dire que ces enseignants-chercheurs ont raison quand même de faire ces revendications?
Bon, dire si tôt qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison, ce n'est pas là disons la finalité. Vous voyez, cette affaire de revendication des enseignants a commencé depuis. Ce n'est pas, vous avez parlé des reliquats des accords de 2011 jusqu'aux dernières augmentations que le chef de l'État a eu accordé aux fonctionnaires de l'État pour couvrir ce qu'on appelle la vie chère. Et donc, normalement, cette gratification devrait, n'est-ce pas, toucher toutes les couches. Mais, sauf que, à l'université de Lomé, il s'est fait que, au niveau des enseignants-chercheurs et au niveau du personnel administratif, ça ne les a pas touchés. Et donc, c'est ça qui a constitué des revendications depuis le temps du professeur Kokoroko jusqu'à ce jour. Et donc, le fait est que, en fait, les salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire des travailleurs de l'université, sont calculés à partir de la grille indiciaire de la fonction publique. OK ? Donc, ce qui suppose que lorsque, par exemple, le magistrat, qui aussi a pratiquement le même traitement, lorsque le salaire du magistrat est touché par les 5 et 10%, automatiquement, celui du professeur, sinon l'enseignant-chercheur, ou du personnel administratif également, parce que c'est des gens qui, à bas d'énormes travail, quand vous arrivez dans les universités, ce que font, que ce soit les secrétaires, les comptables, tout, c'est énorme.
Le personnel administratif.
Administratif. Donc, eux, ils sont pratiquement restés sur les carreaux après tout ce qui a été fait pour les enseignants-chercheurs. Donc, c'est cela que les gens sont en train de revendiquer. Donc, la dernière fois, ils ont fait une réunion avec la présence du ministre. Et on a cru que, c'est après, à la sortie du ministre sur les ondes, on a cru que la situation était calmée. Sauf que hier, les gens sont ressortis, c'est parce que les propos que le ministre de l'enseignement supérieur...
Et là, ils exigent même d'ailleurs la démission de leur ministre de tutelle.
Oui, c'est parce que, en fait, il y va également de la responsabilité des médias. Parce que ce qui a suscité, par exemple, la manifestation spontanée d'hier, c'est parce que les gens ont suivi les reportages sur les médias et ont senti que ce qui a été livré aux médias n'a pas été le contenu de ce qui a été discuté. Avec le ministre, c'était chaud. Et ce n'est pas pour venir dire, par exemple, sur les ondes que nous avons expliqué aux gens ce qui se passe depuis 2010, qu'on a expliqué aux gens en quelques minutes et que les gens ont compris. C'est comme si c'est des injures à l'endroit des collègues qui disent que mais nous maîtrisons notre matière, c'est pas ce qui a été discuté dans la salle. Oui. Voilà, dans la salle, et vous sortez maintenant, vous jouez un jeu de communication qui même va tromper l'opinion et même l'autorité publique, c'est-à-dire le gouvernement même peut être trompé dans cette histoire, comme quoi le ministre de l'enseignement supérieur est parti expliquer à ses enfants et ils ont compris. Alors que ce n'était pas. Heureusement que le président Poda a pris, je crois, le taureau par les cornes et je crois que le calme est en train de revenir et je pense que dans les prochains jours, le calme sera total.
D'accord. Alors, Jamais Pouli, alors, c'est vrai que ça fait longtemps, hein, on n'a plus écouté parler des enseignants-chercheurs à l'université de Lomé, c'est-à-dire par rapport à leurs revendications. Nous croyions, ou nous pensions même d'ailleurs qu'ils étaient les mieux lotis. Hein.
Oh, nous croyons qu'ils étaient les mieux lotis. Bon, non, je pense que ce n'est pas une croyance, ce sont les faits. Maintenant, est-ce qu'ils sont totalement à l'abri de la cherté de la vie? C'est un autre débat. Mais quand vous prenez dans la fonction publique, je crois que les enseignants en général, pas les enseignants du supérieur, en général ont à cette prime, qui ont augmenté leur salaire par rapport aux autres fonctionnaires de l'État. Globalement, on peut se dire qu'ils sont les mieux payés. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment bien payés pour ne pas avoir besoin d'argent? Là, c'est une autre question. Voilà, après, vous savez, on a tellement débattu de ces catégories socioprofessionnelles qui ont des difficultés. Et aujourd'hui, moi, j'ai de la peine à en parler parce que nous sommes dans la corporation des journalistes les plus mal payés au Togo. Et on ne parle jamais de ça. On est là, on parle des autres qui gagnent pas bien alors qu'ils gagnent quatre fois mieux que nous, hein, pratiquement. Mais on parle d'eux. On parle jamais de nous. Nous payons mal nos collaborateurs. On ne parle pas de ça. Nos collaborateurs, même qui sont mal payés, pensent que d'autres sont mal payés.
Mais c'est parce que nous sommes donné ce devoir alors de parler des autres.
Oui, il faut qu'on s'arrête un peu pour parler de nous. Parce que moi, depuis un temps, je dis, bon, c'est bon, la situation de certains se sont quand même améliorée un peu. Je ne dis pas qu'ils sont au paradis. Mais pensons à la presse, pensons aux journalistes. C'est compliqué. Donc il faut que maintenant ils s'adressent à leur employeur, c'est leur droit de revendiquer toujours. Quand vous avez le sentiment que votre employeur peut faire mieux, vous pouvez toujours demander. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le constat, comme vous l'aviez dit, aujourd'hui les enseignants sont les fonctionnaires les mieux payés au Togo. C'est vrai que c'est la réalité. Maintenant, après, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres besoins? Est-ce qu'ils ne sont pas en droit de réclamer plus? Ils sont en droit de réclamer plus.
Ils sont en droit de réclamer plus. Alors, M. Anani, c'est vrai, en suivant la situation, on pourra dire qu'en tant qu'employé, on a toujours le droit alors de réclamer plus.
Pour moi, je dirais que, en fait, à tous les niveaux de la vie, des travailleurs, il y a toujours des inquiétudes. Il y a toujours des moments où l'employé se sent lésé à un moment donné ou non. Mais je pense qu'il ne nous appartient pas de dire si les revendications de nos enseignants sont légitimes ou pas. Ce que moi je vais dire, c'est que comment dirais-je, le gouvernement a des responsabilités vis-à-vis de ce corps-là. Ce corps-là a aussi des responsabilités. Mais il y a une chose que nous oublions. D'un côté, du côté des enseignants, ils sont dans une logique de recherche du bonheur pour les étudiants qui représentent une couche importante de la société de notre pays. Et aussi, le gouvernement est aussi dans une logique d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Alors moi, je pense que, quelles que soient les inquiétudes, les problèmes des uns et des autres, il faudrait que l'on recherche le dialogue, qu'on puisse continuer par dialoguer afin que ce soit un résultat gagnant-gagnant pour les enseignants-chercheurs et aussi pour le gouvernement, pour le bien des Togolais.
Oui, mais chercher le dialogue, monsieur Akoti, c'est vrai, chercher le dialogue, mais à un moment donné, quand on voit que l'autre réclame trop, allez, finalement, on se dit, mais il est très important quand même, puisqu'on a d'autres charges également, hein, on a d'autres, et je veux bien parler alors du gouvernement, le gouvernement pourra dire, il y a également d'autres secteurs.
J'ai envie de dire, c'est tout ça la 5e République, comme l'a dénommé hier l'un de votre confrère Ambroise. Ce qui est important ici, les enseignants sont dans leur légitimité de réclamer ce qui est leur droit, d'accord? Mais comme l'a dit votre confrère, M. Germain, il ne s'agit pas seulement de voir le côté des enseignants, mais quand même, les enseignants à l'Université de Lomé font quand même des normes de travail, d'accord? Mais d'abord, même avoir le secteur éducationnel, avoir même le système d'abord éducatif, on enseigne d'abord quoi à nos étudiants et à la fin, ils sortent comment? D'accord, mais ils sont quand même en train de faire leurs revendications. Donc, ils se trouvent dans la légitimité de faire leurs revendications. Mais quand même, il faut que l'État, le gouvernement, en fait, le pays en question, nous sommes tous des Togolais et le bien commun, c'est le Togo. Donc, pas seulement les enseignants, il faut aussi les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Les enseignants sont très bien payés, d'accord, sont avec des primes, les suissalaires, etc. Mais il ne faut pas seulement tout le temps commencer avec les revendications et que le gouvernement, nos gouvernements ne les attendent pas. Donc, il faut créer un dialogue, un cadre comme le CPC, voilà, récemment avec les politiciens. Voilà, il faut créer un cadre de telle envergure pour que les uns et les autres puissent discuter. Non seulement discuter, mais que ça rentre dans toutes les couches sociales. Les enseignants, les journalistes, combien aujourd'hui est l'aide de l'État à la presse? C'est combien? Rappelez-moi, combien de millions? Combien de milliards? Et donc, il va falloir que l'État togolais elle renforce sa capacité au niveau de toutes les couches, pas seulement au niveau des enseignants, les journalistes, voilà, les maçons, même voilà, toutes les personnes pour qu'on se sent dans la République.
D'accord, voilà. Ok. Firmin, vous suivez aussi la situation quand on prend les enseignants, chercheurs qui réclament. Alors, ils ont aussi leur droit de réclamer parce que c'est aussi une couche de la société.
Non, dire qu'ils ont aussi leur droit, c'est comme. C'est un peu exclusif. Ce qui réclame, c'est quoi? En fait, il faut se dire que la chose est simple, c'est l'égalité de chance. C'est tout. Tout se résume à ce niveau. L'égalité de chance. Donc, on ne m'écoute pas, c'est ça? Ça va?
Oui, vas-y, vas-y. Oui.
Voilà. Donc, c'est l'égalité de chance. On parle de 5%, 10%, et on a fait 5% de par le moment. Alors, ça va, vous pouvez aller? Voilà. Donc, c'est l'égalité de chance, en fait. Donc, les gens veulent un certain équilibre. D'autres ont eu les 5% lorsqu'on parlait de la cherté de la vie. D'autres ont eu 10%. Donc, c'est ce qu'ils réclament, en fait. Donc, la situation peut être réglée facilement si on tient compte de cette égalité de chance. Mais quand le gouvernement réagit quelquefois comme cela, il faut se poser la question fondamentale. S'il y a de l'argent dans la caisse de l'État, on vient de faire les élections aussi, tout ça et toutes les dépenses, il faut mettre en place les institutions de la République. Il y a le nouveau député avec les salaires, tout ça. Donc, je pense que l'État aussi est dans sa dynamique de faire de petits calculs. Donc, les enseignants, ils ont leur plein droit de revendiquer parce que nous sommes tous Togolais. On ne peut pas exclure d'autres. Lorsque le président de la République parle, c'est au nom de tous les Togolais. Et lorsqu'une faveur publique est accordée, c'est à tout le monde. Donc, ils sont dans cette dynamique, au fait. Mais la question est de savoir s'il y a de l'argent dans les caisses. C'est sur ça, fondamentalement, que l'État, lui, va surfer.
D'accord. Oui, Francisco, justement, il faut se poser aussi cette question concernant le fait qu'il y a de l'argent aussi dans la caisse, parce que quand on prend l'État, c'est tout comme un père de famille. Et, des enfants sont là, il y a des charges de la famille, mais il est très important quand même de savoir quel budget allouer à quel secteur.
Oui, moi, personnellement, je ne fais plus ces calculs, parce que quand on est État, on se donne les moyens. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore vu l'État togolais, disons, baisser son niveau de vie. Vous avez vu, par exemple, au niveau des élections, des députés, nous avons crié que ce n'est pas bien d'augmenter le nombre de députés. Mais ça a été fait, c'est des charges supplémentaires. On le disait, vous allez voir, le gouvernement qui va sortir, peut-être que ça va être le double de ce que nous avons actuellement. Et donc, au fait, c'est l'État. Sinon, depuis qu'on crie qu'il y a crise et qu'on demande aux autres de serrer la ceinture et que l'OTR et autres font la pression fiscale, jusqu'à ce jour, notre État ne nous a jamais montré que les caisses sont vides. Okay? Donc, quand le chef de l'État a cru bon de valoriser le salaire des gens, d'accord, on l'a fait de façon générale, sans dire que, par exemple, les enseignants du supérieur sont exclus. Telle personne est exclue. Quand je prends, je parle de personnel administratif des universités, mais c'est des gens dont les salaires sont maintenus comme ça depuis. Donc, alors que le décret ne les exclut pas. Donc, c'est leur droit, c'est-à-dire que le cadeau que le chef de l'État leur a donné, c'est ça qu'ils revendiquent. Et ce qu'il faut voir depuis, il y a des gens qui vont à la retraite. Donc, quand vous allez à la retraite avec un salaire moins de 100 choses, mais après, ça a des implications. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toutes ces inquiétudes qui font que les gens continuent de revendiquer. Donc, s'il y a, par exemple, des prochaines décisions, que la décision soit précise pour dire que tel n'est pas concerné. Vous voyez cette décision, par exemple. Et je prends, par exemple, les gens du service des parapublics. Les parapublics n'ont pas été touchés. C'est pas tous les parapublics, d'autres dont les dirigeants, c'est-à-dire que les directeurs sont véritablement de bons managers, ont pu réussir, n'est-ce pas, à revaloriser leur salaire. Mais d'autres sont restés sur le carreau. Les confrères ont dit tout à l'heure par rapport aux journalistes, l'aide de l'État à la presse, c'est combien? C'est
150 millions.
150 millions. L'année surpassée, Tampa Express a eu 525 000. L'année passée, c'est 425 000. Ça ne fait pas un mois d'impression de Tampa Express. Est-ce que vous voyez, la dernière fois, M. Germain, on doit même, disons, lever le débat à notre niveau, comme la presse, je suis d'accord avec Germain. Il y a des choses qui ont été promises à la presse. Par exemple, les états généraux de la presse ont demandé la revalorisation de l'aide de l'État à la presse jusqu'à l'ordre, je crois, 850 ou bien 900 millions. Mais depuis que Mme Anaté a organisé, la ministre à l'époque avait réussi à organiser les assises, toutes les réformes et tout ce qui a été promis est sur le carreau. La dernière fois, on nous a parlé de la subvention pour les médias en matière électorale. Nous avons pratiquement tous déposé les dossiers. On est en attente. Germain, qui est par exemple un patron des organisations de presse, n'est pas en mesure de me dire que voilà où en est les choses, où en sont les choses, où est la liste, et quelles sont les choses. Est-ce que vous voyez ? Donc nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes en tant que médias d'une seule voix de porter. Donc c'est ceux qui se viennent vers nous qui se plaignent. Donc on est obligé de porter leur revendication. Donc c'est à l'autorité de dire aux Togolais que nos caisses sont vides. C'est à l'autorité de voir, en donnant l'exemple, soit en faisant une restriction de son train de vie. Par exemple, nous avons augmenté les députés, je viens de le dire, de combien ? Il faut évaluer ce que ça va coûter.
De 91 à 113.
À 113. C'est énorme.
Et les régionales également.
Oui, les régionales. Voilà. Et autres, il y a beaucoup. Maintenant, le gouvernement va sortir. Donc, ce n'est pas en demandant à la population de restreindre son niveau de vie quand est-ce que les premiers responsables ne montrent pas l'exemple.
Alors, je voudrais qu'on quitte le sujet. Oui, monsieur à côté.
Oui, j'aimerais un peu ajouter quelque chose à ce que monsieur Bandé a dit. Au niveau, les Togolais veulent justement que nos gouvernants nous rendent les comptes. D'accord ? Le chef de l'État avait dit qu'il y a une minorité qui s'accapare de la richesse du pays. Et si et ces minorités, la main les saisissent, il va falloir également répartir les biens pour qu'on puisse au moins voir ce qui est dans la quête de l'État pour répartir les biens à ce qu'aucun Togolais ne soit lésé. C'est ce qui est important. Il faut que Rapplusia fasse son travail énormément pour qu'on puisse saisir ceux qui sont dans la République et qui pillent le bien du pays. Très important. Là, si les mains, bien Rapplusia fait effectivement son travail et qu'on les saisit, on va voir que. En fait, ce n'est même pas un problème. On peut rapidement et naturellement distribuer les biens du pays aux enseignants, à nous aussi, aux journalistes et à tout le monde. Et on sera heureux. Et la 5e République peut continuer, bien peut avancer, même pourquoi pas la 6e République.
Alors, vous voyez, pour ce qui concerne la redistribution des biens à l'ordre du pays, tel que M. Akoté l'a évoqué, Germain, vous avez l'impression quand même que ce n'est pas aussi équitable ?
Bon, est-ce qu'il y aura véritablement une redistribution des biens ? Est-ce qu'on va prendre le budget de l'État, prendre une partie, diviser ça par 8 millions de Togolais? Non, je ne pense pas. Il y a des choses qu'on peut faire qui profitent à tout le monde. De quoi nous avons besoin aujourd'hui? On a besoin qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, par exemple. Si on met de l'argent pour régler le problème de délestage, c'est comme si on avait distribué de l'argent à tous les Togolais, puisque même ceux qui n'ont pas d'électricité chez eux, beaucoup profitent quand même de l'énergie. Si nous avons des routes, si nous avons de l'eau et tout ça, des écoles, des hôpitaux, l'assurance maladie universelle dont on parle, qui a pris effet depuis le mois d'avril, ça, c'est des choses qu'on répartit à tout le monde. Maintenant, après, il y a des gens qui travaillent pour l'État, qui sont environ 60 000, qui sont des fonctionnaires de l'État. Eux, ils ont droit à leur salaire et ils peuvent à tout moment, puisque c'est l'État qui les emploie, de demander qu'on augmente ou qu'on fasse un certain nombre de choses. Voilà. Après, il y a globalement la justice sociale. Il y a les pauvres, les riches, les zones urbaines, les zones rurales qui manquent un peu de tout et tout ça. Je crois que ce sont les priorités. Peut-être le jour où on aura de l'argent, on va payer aux diplômés qui ne travaillent pas. On va payer à ceux qui ont perdu leurs emplois, on va augmenter les pensions des retraités et tout ça.
C'est un rêve.
C'est un peu comme ça, moi, je vois la chose, mais je ne pense pas que c'est un problème de manque d'argent actuellement. C'est vrai, le Togo en a besoin, surtout avec la crise sécuritaire au nord du pays. Ça pompe énormément d'argent. On n'en parle pas beaucoup, ce qui se passe dans les savanes. C'est beaucoup de centaines de milliards qui vont là-bas tout le temps. Mais après, la réalité, c'est que il y a une catégorie de travailleurs de l'État qui vont être tellement mieux payés que les autres. Alors comprenez, je ne sais pas, je ne mets pas de différence entre le personnel administratif et les enseignants-chercheurs. Vous savez, certains, dans l'administration public normal gagne presque la moitié de ce que gagnent certains enseignants au supérieur. Aller voir un docteur qui gagne peut-être dans les 400 000, un enseignant qui est dans les 700 000, 800 000, vous voyez un peu. Est-ce que l'État peut continuer à satisfaire des catégories en les ciblant comme étant prioritaires, notamment les enseignants et les agents de santé, parce que c'est eux qu'on définit comme prioritaires. Demain, les policiers, les militaires et tout ça, avec ce qui se passe aujourd'hui aussi, deviennent des catégories prioritaires et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le débat. C'est là où moi, je vois la question. Est-ce que l'État peut continuer à satisfaire une seule moitié de ses travailleurs, soi-disant que c'est là où il y a des priorités, au détriment des autres? Si vous avez vu, en temps, il y avait des débuts de mouvement dans le domaine de la santé. Tout les gens voulaient réclamer pour dire eux aussi veulent gagner comme les enseignants. Mais demain, c'est la secrétaire peut-être qui est dans un bureau au ministère de la fonction publique. Est-ce qu'elle est prioritaire aussi? Est-ce qu'elle peut aussi réclamer par rapport à ce qu'on donne aux autres travailleurs de l'État? Je crois que c'est un peu tout ça là. Et puis un cadre quand même de discussion hein, au niveau des syndicats de l'État, surtout au niveau de l'enseignement. Je pense qu'il faut travailler à cela. Maintenant, si c'est les primes promises ou le pourcentage, je crois que Francisco le disait, il y a certaines sociétés, parapubliques et autres, où il n'y a pas eu de cette augmentation. Là, on espère, où on se dit que les gens sont relativement bien payés, parce que c'est des mesures qui ont été prises pour pouvoir amortir un peu les effets de la vie chère. Ce n'est pas en réalité des avancements. Voilà, parce qu'on se dit aujourd'hui le transport coûte très cher. On se dit tout ça est cher. Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout pour aider ceux qui gagne moins hein, pour qu'ils puissent supporter les effets.
D'accord. Et, monsieur Anani, finalement, on a l'impression que chaque secteur a aussi un problème ou a des besoins et il est très important à l'État quand même d'apporter aussi des réponses hein, à ces besoins.
Bon, il y a quelque chose que nous devons comprendre. D'abord, c'est que la gouvernance n'est pas chose aisée. Et l'État, tel que nous le désignons, est le gestionnaire de l'appareil étatique. Et il est important que l'État puisse, de façon équilibrée, savoir gérer, pour qu'à un moment donné, on ne se dise pas, bon voilà, l'économie est à terre, on n'a rien à les casser, c'est comme ça.
Mais peut-être que l'économie est dans la main des autres, hein?
Bon, il faut que l'on comprenne aussi qu'il n'appartient pas à l'État de mettre de l'argent dans la poche des citoyens. Mais l'État a la responsabilité de mettre en place le nécessaire, de satisfaire, comme l'a dit l'aîné tout à l'heure, les besoins vitaux. Pour que, par exemple, lorsque le menuisier va dans son atelier, les conditions que l'État a créées lui soient favorables afin que son business puisse marcher, pour que lorsque le docteur sera en train d'opérer des gens, en train de soigner, l'État lui a déjà créé les conditions pouvant lui permettre d'exercer au mieux sa profession. Il faut que dans cette situation-là, l'État puisse savoir gérer. C'est comme un père de famille, par exemple, qui a peut-être des enfants, 1, 2, 3, 4, 5 enfants, et qui se dit, bon voilà, je vais donner de l'argent à mes enfants en fonction de leurs
besoins.
Pas seulement de leurs besoins, mais aussi et surtout de leur âge. Mmh. Bon, le plus âgé, par exemple, je lui donnerai 2000 francs par jour. Celui qui suit, je lui donnerai 1000 francs et c'est qu'on sort. Mais dans cette distribution que le père de famille juge équitable, équilibrée, il y a d'autres enfants qui se sentent lésés. Et ça arrive toujours. Le petit, par exemple, le Benjamin, ne comprend pas pourquoi c'est lui qui doit recevoir 500 et que le grand frère doit recevoir 2000. Mais je pense qu'en tant que père de famille, il doit pouvoir essayer de distribuer ce qu'il a distribué à ses enfants de façon...
Et il faut expliquer aussi aux enfants.
Voilà, expliquer et faire comprendre aux uns et aux autres pourquoi il le fait ainsi, pourquoi ça doit être ainsi, et faire en sorte qu'à la fin, il n'y ait pas de personne qui soit lésée. Parce que lorsque, dans une société ou bien dans une maison, il y a des enfants qui sont lésés, et il y en a qui considèrent que d'autres sont plus mis à l'aise que d'autres, ça crée des frustrations qui, à la fin, nous donnent ce qu'on
veut. Tout à fait. Alors, Fermin, est-ce que vous, déjà en regardant les choses, les besoins des uns et des autres dans chaque secteur, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains secteurs qui sont lésés?
Non, ce n'est pas seulement au Togo. C'est comme ça que fonctionnent tous les États. Quand vous allez en France, tous les médecins français sont pratiquement, font partie des mal payés en France, comparativement à l'Allemagne ou à la Suède. Donc, il y a des revendications partout dans tous les pays. Et quand vous allez aux États-Unis, il y a des secteurs qui sont lésés par rapport aux autres. Donc, le Togo, moi, j'ai le sentiment que des gens considèrent le Togo comme une particularité. Il n'y a rien de particulier. Nous vivons comme les autres, sauf que nous n'avons pas les moyens. Nous ne sommes pas un pays développé. Donc, c'est normal que nos besoins soient beaucoup plus importants.
Mais est-ce que des fois, il vous arrive alors de comprendre qu'on exige à l'État ce qu'il n'a pas?
Oui, c'est notre droit d'exiger. Et surtout quand on voit les autres, quand on voit, vous savez, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus démocratisées. Peut-être il y a des choses que nous faisons aujourd'hui que nos parents n'ont pas pu faire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Canal+. Il n'y avait pas les technologies. Aujourd'hui, le monde est tellement ouvert que quand vous voyez des choses sur votre smartphone qui se passent en France, aux États-Unis, vous avez l'impression, vous voudrez que ces choses-là se réalisent ici. Donc, tout part de là. Vous savez pourquoi certains, en Chine, par exemple, on essaie de contrôler TikTok, on essaie de contrôler les réseaux sociaux. C'est pour que des gens ne soient pas, ne laissent pas leur psychologie travailler par ce qui se fait dans les pays occidentaux. En fait, tout ça là participe. Mais ce que nous faisons ici, c'est parce que on a des besoins, que l'État ait des moyens ou pas, nous on va toujours revendiquer. Et il revient à
c'est
l'État.
Notre droit.
C'est notre droit le plus absolu. Il revient maintenant à l'État de créer ou de savoir créer de la richesse. C'est ça aussi le rôle de l'État. Comment créer de la richesse pour que tout le monde soit satisfait un peu au mieux. Mais il faut savoir qu'on n'aura pas toujours tout ce que nous voulons. C'est la vie, c'est le charme de la vie.
D'accord, monsieur Côté.
Oui, je ne suis pas d'accord quand monsieur Firmin dit tout à l'heure que nous ne sommes pas un pays atypique et que les mêmes problèmes sont ailleurs. Mais nous ne pouvons pas comparer les États-Unis, la France et le Togo. Non. Ce que nous voulons, c'est que il faut les besoins de première nécessité, les besoins basiques, il faut que ça soit résolu. Quand le chef de l'État avait fait le discours le 27 avril 2023 passé, il dit quoi? Que quand on dit que je vis au Togo, il faut que j'ai les besoins basiques, c'est-à-dire que la nécessité de l'eau, l'électricité, la fibre optique, c'est-à-dire que l'Internet. Mais aujourd'hui, ces paroles le rattrapent comme la VAR. Est-ce que ces besoins, le Togolais, lambda aujourd'hui, a ses besoins basiques aujourd'hui? Moi, je suis entrepreneur et je consulte des entreprises. Quand vous voyez la coupure d'électricité qui se fait répétitivement, vous savez combien de personnes perdent des millions? Des gens qui travaillent à bas de... Et nous sommes dans un pays où il n'y a pas la coupure, il n'y a pas l'électricité. Et on nous dit qu'il ne faut pas comparer, bien, il ne faut pas...
Mais là aussi, c'est un problème de la sous-région.
Oui, c'est un problème de la... Non, pas de la sous-région. Mais il faut que nos dirigeants... C'est-à-dire que la gestion de l'État... Également, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la nécessité de pouvoir bien gérer les biens tout d'abord et aussi rendre compte à la population secondo, mieux et faire une projection sur le futur. Gouverner, c'est prévoir. Mais est-ce qu'on prévoit toujours qu'il y aura la coupure d'électricité? Aujourd'hui, on a les panneaux solaires. Les États-Unis d'Amérique, la France innovent. On ne peut pas copier ces années d'innovation. Un étudiant en comparaison qu'on ne peut pas dire qu'on a les mêmes problèmes. Non, je ne suis pas d'accord. Il va falloir qu'on dépasse ce niveau et qu'on prenne la nécessité des besoins de la population pour qu'on puisse avoir la paix du cœur, non seulement la paix, pour qu'on puisse bien vivre dans la cinquième République. Et très important.
Vous insistez là-dessus.
Non,
vous
continuez. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Quand je fais la proposition, j'ai dit, en réalité, nous ne sommes pas au paradis. C'est-à-dire que tout le monde sache que nous ne sommes pas au paradis. Quand nous disons que nous avons des besoins ici, celui-là qui est peut-être dans la plus grande puissance du monde a aussi des besoins. Juste dire que nous ne sommes pas un pays particulier. Autant on dit qu'on a des besoins ici, autant peut-être celui-là qui est en Chine ou en France dit qu'il a aussi des besoins.
Mais chez lui, il n'y a pas la coupure d'électricité.
Attendez une seconde. Juste dire que chaque pays a ses besoins et essaie, ou les dirigeants essaient de les régler, de trouver des solutions relativement à ses besoins. Ici, par exemple, quand on parle de la coupure d'électricité, moi, je dis souvent que, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, ce n'est pas propre au Togo. Je le dis toujours. Le problème, c'est que les dirigeants africains ont échoué en termes de politique énergétique. C'est tout le problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de panneaux solaires, tout ça, chacun essaie de gagner un projet, et puis on dit, oui, on va électrifier 200 villages. Ce n'est pas ça, le problème. Si on arrive à porter ce problème à l'échelle régionale, à l'échelle continentale, on se dit, peut-être, on a besoin de 600 milliards d'euros, 1000 milliards d'euros pour régler le problème énergétique, pour que dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, l'Afrique sorte définitivement de l'obscurité.
C'est ça, moi, mon problème. Moi, je ne voudrais pas qu'on appuie la société, qu'on dise oui. Mais parce qu'aujourd'hui, quand on va trouver une petite solution, 2 ans, on se rassemble de l'estage. Mais 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, on va vivre le même problème. Peut-être il y a des gens qui sont encore mieux jeunes que nous. Mais vous savez, en 98, il y avait eu des lestages. Mm-hmm. Moi, je me rappelle très bien, on mm-hmm. était trop petits. Mm-hmm. En 2006, il y avait eu des lestages. On essaie de trouver une solution à minima. Mais aujourd'hui, nous vivons encore le délestage. Est-ce qu'on va toujours trouver cette solution-là qu'on avait appliquée en 98 ou en 2006? Non, moi, ce que moi, je souhaiterais qu'on aille au-delà et qu'on se dise, on a échoué. C'est ça, moi, mon réalisme. Qu'on dise une seconde. Qu'on dise qu'on a échoué, que le président de la République, vous voyez la manière dont il s'implique dans la crise sahélo-sahélienne, mais qui dit à ses amis, vous savez, il y a un problème fondamental que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas développer, on ne peut pas avoir une croissance exponentielle à l'avenir sans énergie, ce n'est pas possible. Nous avons l'électricité, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y avait un Français qui avait dit, moi je vais parcourir toute l'Afrique et je vais mobiliser plus de 600 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que les dirigeants africains disent? Que font les SMS se disent? Moi aujourd'hui j'ai une certaine cote auprès des jeunes de la sous-région, dans toute l'Afrique. Mais regardez, nous pouvons faire quelque chose en matière d'énergie. Mobilisons nos ressources et dans les 5 ans à venir, on vivra sans délestage.
D'accord, oui, voilà. Merci beaucoup, monsieur à côté. Oui.
Vous savez, moi, j'ai suivi le dialogue social depuis le début, je crois, 2010, tout ça là jusqu'à ce jour. Là où on a un peu mal coaché, c'est qu'on a cru qu'on pouvait prendre certains, les satisfaire et laisser les autres sur le carreau. Donc, les secteurs qui avaient de bons porte-parole, quand je prends par exemple la justice, on les a pris de côté, on a amélioré leurs conditions. Mais ce n'est pas fini. Quand vous prenez la structure salariale, par exemple, du magistrat, il y a plus de primes, de remboursement que de choses. Quand il part à la retraite, il devient miséreux. Parce que la retraite est calculée par rapport au salaire brut. Maintenant, quand nous prenons les médecins, c'est-à-dire le corps enseignant, eux aussi, ils avaient fait leur revendication. En temps, on a essayé de leur faire quelque chose et puis après, les choses. Vous prenez l'enseignement supérieur, c'est ça. Donc, ils ont eu quand même de bons porte-parole et ils ont eu des satisfactions que les gens trouvent. Même le ministre de l'enseignement supérieur là est allé, je crois, devant même les députés pour dire que les enseignants du supérieur sont les mieux payés. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que il y a d'autres agrégats qui rentrent en jeu. Et quand on parle personnel, donc, on n'a pas résolu le problème globalement comme ailleurs. Il parle de la France. On a résolu le problème globalement. Quand on part du calcul de l'indice, c'est que la disparité entre deux salaires, sur nos deux catégories, ne devait pas être aussi grande. C'est qu'on a voulu résoudre la chose secteur par secteur. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens sur lesquels vous prenez, par exemple, un médecin qui est enseignant, chercheur, professeur et à l'université. Quand vous prenez son salaire et le salaire du spécialiste, d'accord, qui est fonctionnaire, mais il n'y a pas match. Maintenant, quand vous allez prendre encore celui qui est, par exemple, un officier militaire, qui est professeur à l'université, vous le comparez avec son collègue professeur du civil, et vous voyez, il y a également disparité. Donc, voilà des choses qu'on n'a pas su régler et qui créent aujourd'hui deux problèmes où on dit d'autres n'ont pas assez, alors que le décret, sinon les décrets ne précisent pas que telle personne est exclue. Donc voilà le point.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un secteur qui revendique et là l'État répond à ses besoins?
Oui, il faut dire déjà qu'il y a eu des problèmes de grève assez violentes dans ce pays, surtout dans le secteur de l'éducation et un peu dans le secteur de la santé. On a fermé parfois des centres, les gens, même la morgue, tout ça. Donc, tout ça fait que le gouvernement était obligé de trouver des solutions à ces deux secteurs-là. C'est vrai aussi, quand vous prenez en termes...
Et ça, c'est pour avoir peut-être la paix du cœur.
Oui, en termes d'effectifs aussi, c'est le plus gros effectif. Les enseignants sont le plus gros effectif des fonctionnaires, suivi des médecins, avant les autres. Donc, on a pris deux grands groupes de fonctionnaires qui ont vu leur situation un peu plus amélioré que les autres. Après, globalement, les enseignants beaucoup mieux que les autres. Donc, c'est de bonne guerre quand vous dirigez un pays. vous avez besoin de tranquillité, ça se passe un peu partout. Mais après, vous avez vu que les grèves ne prospèrent plus maintenant. Parce que, surtout dans le domaine de l'enseignement, le gouvernement s'est dit, ben, si on continue par satisfaire ces gens-là, on aura beaucoup de problèmes avec les autres. Donc, le gouvernement ne peut plus suivre ces grèves-là. Et aujourd'hui, vous verrez même que les rentrées sont beaucoup plus paisibles. On dirait peut-être qu'ils sont satisfaits, mais quelque part, des efforts louables ont été faits. Donc, il faut le saluer. Et on s'accordait tous à dire que c'était des secteurs prioritaires. Les gens vous diront, mais tel est devenu tel, c'est grâce à l'enseignant. On oublie même la sage-femme qui l'a fait naître avant. On oublie même le cultivateur qui a fait manger. Donc, bon, c'est vrai que dans l'agriculture aussi, on finance un peu tout. Donc, je crois que c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, quand on prend le problème d'énergie dont parlait Firmin tout à l'heure, je voulais quand même en parler un peu rapidement. Moi, j'ai pris part à une rencontre il y a une dizaine d'années où les Africains s'étaient réunis. Ils estimaient que l'Afrique était à 80% dans l'obscurité. Il y a des projets à l'échelle continentale, mais qui traînent. Il y a des projets régionaux. Vous avez depuis presque 2 mois le Tchad, le Togo et les 3 pays de l'AIS travaillent sur un projet d'électrification. Donc, après, sur le plan national, vous avez vu que l'énergie solaire a été promue et tout ça. Donc, tout ça sont des solutions que chaque État essaie de mettre en place. Le besoin est réel. Les coupures sont... c'est pas propre au Togo. Hein.
D'accord. Merci beaucoup, Germain. Ouais. Merci beaucoup, Germain, parce que notre temps est déjà très avancé, puisqu'il y a les auditeurs qui s'impatientent aussi en ligne alors pour s'exprimer sur le sujet. Et donc, nous allons leur donner aussi la parole et ils vont s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Et c'est à travers le 22, 21, 33, 14 ou le 91 36 63 75, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonces.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission et vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et s'expliquer aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 22 21 33 74, 22 21 33 74, 91 36 63 75. Premier auditeur que nous insérons. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Je sais pas.
D'accord, votre nom c'est?
Oui, mon nom c'est Aliou.
Aliou, vous nous appelez de quel quartier?
Avedi.
Avedi, allez-y.
Et je vais passer à l'émission.
Oui, vous y êtes, allez-y.
Oui, je voudrais demander à Firmin, moindre chose, on parle du Togo, et quand lui, il prend seulement... il dit maintenant la France, l'Amérique, il est né quand, il a été où? Quand on parle du Togo, au lieu de parler du Togo, il parle de la France, l'Amérique. Hein?
D'accord.
On vit selon nos moyens ici. Si tu n'as rien à dire, il faut laisser. Hein? C'est mon intervention.
D'accord. Merci beaucoup, M. Aliou. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Ah, il est parti. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oh, ça va. C'est Kodjo de Badago.
Ah, Kodjo de Badago. Allez-y, M. Kodjo.
Tout juste pour vous dire que le Togo ne représente même pas la capitale de certains pays. Donc, nous ne pouvons pas nous comparer à qui que ce soit. Il doit falloir bien partager tout et que tout le monde sera à l'aise. Nous n'avons pas besoin d'être tous présidents, d'être tous ministres. Mais nous voulons seulement vivre comme les autres, à l'aise, en santé et en éducation. Aidez-nous, qu'ils nous écoutent au moins. La 5e République a démarré. Ça n'a qu'à continuer, mais s'il faut la 6e République, il faut que le Togolais soit à l'aise à l'hôpital et à l'école, à la maison et dans la justice.
D'accord. Merci beaucoup, M. Kodzo, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavor.
Nyamavor.
Allez-y.
Oui, chaque fois on entend que les enseignants sont mieux payés, les médecins sont mieux payés. Bon, est-ce qu'on a interdit les autres secteurs de revendiquer leurs droits? Hein, aujourd'hui, on parle d'amus, de quoi. Les gens vont, ils ne trouvent même pas les papiers pour se soigner. C'est à nous de leur demander de revendiquer. Quelqu'un qui sait que ce qu'on lui donne, ça ne suffit pas. Il le revendique. On lui dit qu'il le capte trop. Or, on sait que tous les secteurs, ça ne marche pas. Même les derniers paysans aussi, ça ne marche pas chez lui. Chacun n'a qu'à se former pour faire cette revendication. Nous sommes désolés. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gado. Comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va. On dit merci à Dieu.
Je crois que vous avez compris la leçon. Hein? Bon, moi, ma question est que vous, les journalistes, quand on pose des questions, vous ne répondez jamais. Vous dites que les anciens sont mieux placés. Vous vendez aussi, non? Vous êtes des commerçants, non? Et vos journaux, là, ça sert à quoi? Hein? Donc, à vous, vous êtes aussi mieux placé parce que Luc Bois vous donne un peu et puis vous vendez encore les papiers. Alors, où est le problème? Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi. 22-21-33-114-91-36-63-75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. 22-21-33-114. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Pellé.
Oui, c'est Pellé.
Voilà. Allez-y.
Bon, moi, mon inquiétude encore, parce que nous sommes dans la 5e République. Quand on parle que nous sommes dans la transition, et nous sommes encore dans la 5e République. Je ne sais pas comment on va nous expliquer celui qui dirige la transition, c'est celui-là qui va devenir encore le président après avoir effectué la transition. Parce que, quel que soit Alpha, le président Fonny Assimbé qui sera le président des conseils. Et il est encore à la tête de la transition. Vous voyez le paradoxe. Chez nous, dans notre tradition, on sait que la tradition, c'est comme le régent. Celui qui est régent ne peut pas devenir le roi. Vous voyez? C'est-à-dire, la République qu'on nous sert ici, et en amont, on doit nous servir de table pour qu'on sache qu'on est en train de ce qu'on veut vivre. Même on a appris que ceux qui, on ne connaît pas les initiateurs, même le conseiller du président Fonny Assimbé, M. Pascal Boudjena, même il ne connaît même pas le texte. Tout ça là, vous voyez que nous sommes dans une. Je ne sais pas si on veut rentrer dans une revue bananière. Donc il faudrait que ceux qui ont écrit les lois ou bien les textes viennent nous expliquer clairement.
D'accord. Merci beaucoup, voilà. M. Pellé. Oh, merci, Vando, 21-33-114-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi, 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui, disiez, bonjour.
Ça va? Bonjour, M. Pouli. Bonjour, Firmin. Bonjour, l'homme, M. de Tampa. Bon, moi, j'ai écouté religieusement ce que vous avez dit, la discussion aujourd'hui. Moi, je pense que tout ce problème dit à la mauvaise gouvernance du pays et puis à la mauvaise distribution des ressources de l'État. Vous l'avez vu. Et la mauvaise gouvernance, parce que avec la corruption, la route le met vos gants. Quand nous prenons les chefs de l'État, même a identifié la minorité qui pille. Il a déjà identifié. Mais s'il prenait les soins, on pourrait régler le problème de la société. Si le chef de l'État même là diminuait son train de vie, Monsieur Pouli, Monsieur Figuier, vous connaissez le prix d'un Maïbache, la voiture du président, encore présidentielle, la classe G qui le suit, vous connaissez, la Lexus qui le suit, vous connaissez, la 4x4 qui le suit, vous connaissez. Si le chef de l'État même diminue un peu son train de vie, je pense que le problème de la société est réglé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Didier, pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? 22. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, Canal.
Oui, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom?
Bako Mohamed.
Bakoma.
Bako.
Bako.
Oui, BACO.
D'accord. Vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle de Asigane.
D'accord, allez-y.
Oui. D'abord, je salue le plateau. Il y a un adage français qui dit une bouche pleine, ça ne parle pas. Si les gens revendiquent, tout le monde crie, c'est parce que ça ne va pas. Or, qu'il y a l'argent au pays, OTR est là, le port est là, Akidam est là, qui mange et qui ne mange pas. Nous, on ne veut pas être président, on veut avoir le ventre plein, vivre aisément. C'est tout ce qu'on veut.
D'accord. Merci beaucoup, M. Bako. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 73, 75. Allô? Oui, bonjour. Allô, allô, bonjour. Allô, peut-être qu'il n'est pas avec nous. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 73, 75. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Il est parti. 22, 21, 33, 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, merci.
Ça va aussi. Votre nom?
Monsieur Girard.
Monsieur Girard, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle de Hankopé.
Hankopé, allez-y.
Oui. Ben, moi, c'est que cette affaire, ce problème de revendication existe déjà depuis 2 années. Hein, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on vient de faire les élections, que peut-être que le gouvernement agit comme ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est un problème qui existait depuis. Ce n'est pas une revendication qui date d'aujourd'hui. Et qu'on va parler de problèmes d'argent. Et puis quand on veut parler de particularités du Togo, et qu'on veut dire qu'on a les mêmes problèmes, on se contredit en disant que sauf que le Togo n'a pas d'argent. Oui, il y a déjà une certaine particularité. Et je voudrais vous remercier ou bien vous féliciter pour le plateau tel que vous essayez d'équilibrer vraiment les choses. Les autres personnes refusent parce qu'on a l'impression que les confrères, ils ont chasse gardée pour le micro et puis on pense nous sensibiliser ou bien vouloir nous coloniser. Et il faut nous inviter dans ce nouveau format. Et j'apprécie les uns les autres qui essaient de cadrer un peu vos confrères. Et ça, je vous remercie beaucoup pour le nouveau format.
D'accord, merci beaucoup Gérard, il n'y a personne qui encadre qui que ce soit ici. Nous allons recevoir le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Votre nom c'est?
Noé.
Noé, vous nous appelez de quel quartier?
Bénédi.
Bénédi, allez-y.
Oui, moi je voulais parler du train de vie de l'État. Quand vous voyez la présidente, le budget alloué à la présidence, le budget alloué à la primature, le budget alloué à chaque ministère, le traitement des travailleurs de l'OTR, vous venez au niveau de la caserne. Si elle comprend que est-ce qu'on est dans le même pays, quand on dit qu'il n'y a pas l'argent, et au même moment on va certains vivre très à l'aise. Mais ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas l'argent, mais prouvez-le à travers votre vie, à travers des décisions, contente que, ah oui, il n'y a pas l'argent dans le pays. Donc tout le monde doit serrer les ceintures. Mais quand ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas venir nous bluffer. Il y a l'argent, mais les gens préfèrent eux-mêmes leur propre vie que les habits des autres dans le pays. C'est ça le souci. Donc si les enseignants ont le courage de revendiquer, mais laissons-les revendiquer. Ceux qui trouvent que ça les plaît, leur condition de vie, eux aussi n'ont qu'à aussi se contenter de leur vie, pas qu'on se plaigne pour quelqu'un. Il n'y a pas un mineur qui travaille dans la fonction publique. Nous sommes tous des majeurs dans le pays, donc chacun fait ce qu'il lui plaît. Donc, comme ça, moi, je ne trouve pas que l'État n'a pas de l'argent. L'État a de l'argent. Si on gère bien les ressources du pays, on est parti pour mieux vivre, pour ne pas vivre ce qu'on vit actuellement dans le pays. Parce que c'est la mauvaise gouvernance qui fait tout ça. Là. Donc, il ne faut pas qu'on justifie ce qui n'est pas à justifier. C'est ça mon apport. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Noé. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de Sozo. Nous revenons en plateau. Chers amis, vous avez écouté les uns les autres aussi se prononcer hein, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Francisco, vous avez écouté nos auditeurs. La réaction?
Oui, elle est unanime. Elles sont unanimes, hein, toutes les réactions. Donc c'est à l'État, n'est-ce pas, de montrer à ses concitoyens ce qui est vraiment dans la cagnotte et comment les répartir. Même personne ne peut dire de les répartir à part égale. Et tout à l'heure, on m'a écrit pendant que je citais le corps que c'est comme ça, le corps de la police, des gardiens de préfecture et je crois ceux de la prison, hein, qu'ils ont eu des réformes. Hein, qui sont assortis de décrets et de lois, mais les décrets d'application ne sont pas encore sortis pour qu'on puisse arrimer leur rémunération. Donc vous voyez que le travail est énorme. Et il va falloir véritablement que l'autorité suprême, n'est-ce pas, prenne à bras le corps les dossiers.
D'accord. Zemir?
Ben, je suis pas totalement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des besoins qui se manifestent un peu partout dans tous les secteurs. Et en même temps, il faut que l'État trouve cet argent quelque part. Et voyez un peu toute la pression aussi qui est sur l'Office togolais des recettes, qui met déjà la pression sur ceux qui contribuent et qui sont les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un peu de cela qu'il s'agit, c'est comment amener plus de Togolais ou ceux qui sont installés au Togo à consentir volontairement au paiement des impôts pour donner des moyens au pays, donc impôts et taxes. Et les mairies aussi sont concernées. On attend beaucoup de nos élus locaux, mais les ressources également aussi à ce niveau sont assez minces. Donc tout ça l'un dans l'autre, c'est que nous allons devoir retrousser plus les manches, travailler beaucoup plus, parce que moi j'en parle parce que pas plus tard qu'hier soir j'étais à l'OTR, hein, on m'a sorti une facture assez bien salée, que je me plaignais, mais je comprenais bien aussi la pression qu'on me met, parce que il y a des besoins, et donc tout entrepreneur aujourd'hui est concerné, et donc c'est nous-mêmes qui allons bâtir notre pays, c'est nous qui allons régler nos problèmes. Il faut plus travailler, ça va être très difficile, il faut s'armer de courage, donc je pense que les besoins qui se manifestent sont tout à fait normaux, la vie devient chère, on a besoin de plus d'argent, et donc l'État aussi est sous pression. Les sources de l'État, on les connaît, ce sont les matières premières, ce sont surtout les contributions, la douane et les impôts, c'est l'OTR qui alimente plus le budget de l'État. Comme je le disais tantôt, nous avons aujourd'hui, outre l'assurance maladie, qui est une bonne chose qui arrive, il y a des besoins sécuritaires dont on ne parle pas beaucoup. Et tout à l'heure, l'ami parlait de communiquer, mais sur les questions de dépenses, je crois qu'il y a très peu de communication qui se font maintenant avec la 5e République. Heureusement, avec la 5e République, les députés auront plus de pouvoir sur les gouvernants pour réclamer plus de comptes.
D'accord.
Et peut-être quand les comptes seront rendus, les gens vont contribuer beaucoup plus facilement à l'effort de guerre.
D'accord. Merci, Germain. Monsieur Anani, vous avez écouté les uns les autres se prononcer. Quel est votre mot pour clôturer cette émission?
Bon, moi, j'ai retenu la déclaration d'un appelant qui a dit clairement, bon, nous ne voulons pas être président, nous voulons juste que nos conditions soient améliorées. Je pense qu'il partage ou bien il communique la préoccupation majeure du citoyen lambda. Le Togolais n'est pas vraiment intéressé par le politique. Le Togolais est intéressé à ce qu'il vive dans une condition qui ne frise pas le ridicule, qui ne lui enlève pas la dignité d'être humain. Alors, je pense que l'État ou le gouvernement doit pouvoir revoir sa copie. Je sais que des efforts sont consentis presque dans tous les domaines. Mais je me dis que ce qui a été fait jusque-là, comparativement ce qui reste à faire, est énorme. Le travail qui attend le gouvernement, surtout si je rejoins mon frère dans notre 5e République, dans un renouveau que le gouvernement ou bien l'État nous propose, le chantier est énorme. Il faudrait... tout à l'heure, notre aîné parlait de l'OTR que j'ai eu à visiter il y a 2 jours. Je pense que l'entrepreneur togolais, celui-là qui commence à la base aujourd'hui, est asphyxié. Vous voyez des gens qui ont juste commencé avec une boutique ou peut-être une petite entreprise, qui sont obligés de fermer le soir pour aller faire du zemija, par exemple. Parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de recettes et on est aussi forcé de payer. C'est vrai que le citoyen a la responsabilité de payer ses impôts afin que l'État puisse avoir les revenus pour gérer. Mais il faudrait que l'État puisse réfléchir à quoi faire.
Les conditions,
pour aider les start-up à ce que ceux-là ne soient pas asphyxiés au tout début de leur entreprise.
Merci beaucoup. Alors, monsieur à côté.
Oui, j'ai 2 interpellations. Premièrement, parfois, c'est comme si le président de la République ignore la réalité de sa population. Chaque temps, on le voit dans l'avion. En fait, quand nous parlons ici, ce n'est pas qu'on a quelque chose contre le gouvernement, bien contre le pouvoir en place. Nous sommes les citoyens, nous voulons que les choses aillent, les choses marchent pour l'évolution du pays. Il faut que par nous supplions notre chef de l'État de réduire un peu voilà, ses voyages en avion pour qu'il puisse toucher du doigt les réalités de la population. Nous souffrons. L'eau tout le temps rentre dans nos chambres, nous ne dormons pas en paix. Il y a l'électricité, la coupure, etc. La chaleur énorme. Il faut que le président réduise un peu ses sorties en avion. Hier, il était au niveau du Tchad. Mais bon, il y a un peu d'incohérence par rapport à cela parce que le fils d'Ebi, c'est un poutiste aussi. Mais bon, je ne vais pas rentrer sur ce terrain. Mais la seconde interpellation, c'est au niveau des élèves qui ont parlé politique. J'aimerais, bien évidemment, faire une doléance. Et on prône la démocratie. On est dans la 5e République, bien sûr, mais on prône la démocratie. Et ils ont juste intéressé par la politique. Ils ne font pas la politique politicienne. Donc nous supplions nos gouvernants qu'on les libère. Peut-être ils ont mal parlé, mais bien sûr qu'on les corrige et qu'on les libère pour qu'ils puissent aussi s'intéresser à la politique.
D'accord. Merci. Merci à côté. Voilà, infirmière.
Deux petites choses. La première chose, vous savez, je suis très heureux quand on ouvre l'antenne parce que ça me permet d'apprendre des uns des autres qui interviennent. Alors, à ce niveau, quand des gens me reprochent de faire des comparaisons, vous savez, on ne peut pas faire de débat sans comparaison. Ça n'existe pas. C'est comme quand, lorsqu'on a sorti on a promulgué la Constitution et que cela a été rendu public. Lorsque j'ai lu toute la Constitution, moi, je suis allé chercher les autres constitutions de par le monde. La Constitution chinoise, le régime britannique, tout ça. C'est avec ça, lorsque vous faites ça, c'est avec ça que vous arrivez à faire votre propre analyse. Le débat se fait comme ça. Et l'autre chose aussi, c'est que celui qui a appelé en France, il a parlé en français. Donc, il fait la promotion de la France sans le savoir. Donc, tout débat se fait avec des comparaisons. C'est comme ça se fait. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est quoi? C'est que nous sommes dans la 5e République, oui. Mais on a un an pour installer véritablement cette constitution-là.
Et c'est la disposition transitaire.
Nous faisons encore un peu de... On a besoin encore de quelques principes et d'usage de la 4e République pour virer vers la 5e République. La constitution de la 4e République n'est pas encore totalement partie.
Merci beaucoup Firmin Tekou Agbo d'être passé dans cette émission. Merci Francisco Napokoura d'être passé dans cette émission. Germain Pouli, merci beaucoup puisque notre temps est déjà avancé. Merci beaucoup.
Alors,
merci
Kofi Annani.
Merci beaucoup à monsieur Kofi Annani d'être passé aussi dans cette émission. Jean-Paul Jean à côté, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir.
Une élection historique quand même qui a eu lieu ce matin à l'Université de Cara. Professeur Rozo qui a élu première femme doyenne de la faculté des sciences de la santé à l'Université de Cara.
Ok, merci beaucoup. Vous avez passé le message. Alors, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis aussi, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver le lundi pour un nouveau débat qui serait surtout l'émission Club de la Presse, bien sûr. On se retrouve alors le lundi. Allez, au revoir et bon week-end.